et les bords, minuit. De l'eau sur Mars.
De l'eau sur Mars, sur et les bords, la nuit à partir de minuit, le secret.
Sur et les bords.
Thank you. would surprise every sunrise, the earth would have me back. Surprise my knees, hold me up, that it's not all gone black. And I'm sure by nightfall I will burn up all I have. So don't go out your way to make a good day bad. So don't go out your way to make a good day.
Par une inconnue, cependant un devoir s'impose à moi. Dorsey Adams m'a donné à entendre que vous comptiez écrire un long article sur les vertus de la lecture pour le supplément littéraire du Times et que vous aviez l'intention d'y parler du cercle des amateurs de littérature et de tourtes aux éplucheurs de patates de Guernesey. Je ris. Peut-être considérerez-vous la question quand vous saurez que sa fondatrice, Elizabeth McKenna, n'est même pas originaire de l'île. En dépit de ses grands airs, ce n'est qu'une parvenue qui travaillait comme servante à la résidence londonienne de Sir Ambrose Evers, Royal Academy. Vous avez sûrement entendu parler de lui. C'est un peintre portraitiste d'un certain renom. Quoi qu'il en soit, Elizabeth McKenna est la fille de sa gouvernante, excusez du peu. Pendant que sa mère époustait la maison, Sir Ambrose permettait à l'enfant de traîner dans son atelier. Il s'est même arrangé pour qu'elle aille à l'école plus longtemps que nécessaire pour les personnes de sa condition. Sa mère est morte quand Elizabeth avait 14 ans. Vous pensez que Sir Ambrose l'aurait envoyée dans une institution afin qu'elle y reçoive l'éducation indispensable à trouver une occupation convenable ? Non, il a préféré la garder avec lui dans sa demeure de Chelsea. Il a même posé sa candidature afin qu'elle étudie à la Slade School of Art. Je ne prétends pas que Sir Ambrose ait engendré la petite, nous connaissons trop bien ses penchants pour le supposer, mais il a choyé de telle manière qu'il a encouragé son travers déplorable, le manque d'humilité. le déclin des usages et de la plaie de notre temps. Elizabeth McKenna en est une illustration patente. Sir Ambrose possédait une résidence à Guernesey, au bord des falaises près du petit port. Il y venait chaque été avec la fillette et sa gouvernante. Elizabeth était un petit être sauvage et débraillé qui passait ses journées à vagabonder dans l'île, même le dimanche. Elle n'avait aucune corvée à accomplir, ne portait ni gants, ni chaussures, ni bas. Elle montait à bord des bateaux de pêcheurs grossiers et espionnait les gens convenables avec son télescope. Une véritable honte. Quand il est devenu clair que la guerre allait vraiment éclater, Sir Ambrose a envoyé Elizabeth fermer sa résidence d'été. C'est à cette occasion qu'elle a payé le tribut de ses manières peu orthodoxes. Elle rabattait les volets quand l'armée allemande a atterri devant l'entrée de la grande demeure. Quoi qu'il en soit, elle est demeurée sur l'île de son plein gré, et certains événements qui ont suivi, que je ne m'abaisserai pas à mentionner ici, ont prouvé qu'elle n'est pas l'héroïne dévouée que d'aucuns s'imaginent. Ce prétendu cercle littéraire est un scandale. Il y a des gens cultivés et bien élevés à Guernesey qui se refuseraient à participer à cette mascarade, même si on les y invitait. Je ne connais que deux individus respectables dans ce groupe, Evan Ramsey et Amelia Maugerie. Ses autres membres sont un chiffonnier, un aliéniste déchu qui boit trop, un porcher bègue, un valet de pied qui se prend pour un lord, Isola Priby, une sorcière qui, de son propre aveu, distille et vend des potions de son cru, et deux ou trois énergumènes ramassés en chemin. On devine aisément à quoi ressemble leur soirée littéraire. Vous ne pouvez pas écrire sur ces individus et leur lecture. Dieu seul sait ce qu'ils jugent digne d'être lus. Dans un souci purement chrétien, votre très consternée, Adélaïne Addison.
De l'eau sur Mars, sur et les bords.
C'était comment le jeu de boules? Comme d'habitude. Il y avait qui? Les mêmes que d'habitude. Il était là, monsieur Ourigoyan? Irigoyan. Pas plus qu'elle n'écoute les réponses à ses questions, Marthe ne retire les noms, même répétés des dizaines de fois. Bien sûr qu'il était là, on fait équipe. S'il n'est pas là, je préfère ne pas jouer. Et il va bien? Oui. Il est toujours célibataire? Il n'a toujours pas refait sa vie? Marthe a une affection particulière pour les expressions toutes faites à connotation discrètement sexuelle comme « olé olé » ou « c'est une maîtresse femme ». Bah non. Comment veux-tu qu'il ait rencontré quelqu'un entre hier et aujourd'hui? Et le grand, là, bel homme, Jean-Jacques? Non, Paul-Jacques, Jean-Paul, c'est ça. Toujours aussi pince sans rire? Je ne vois pas ce que tu lui trouves. Il est grand, ça, on ne peut pas le lui enlever. Mais à part ça, son fils est toujours à l'hôpital? Ah oui, c'est un beau métier, brancardier. On ne laisse pas tomber quand on tient une place comme ça. Et celui qui... Arrête, va, c'est toujours les mêmes et il ne leur arrive rien de nouveau. Qu'est-ce que tu veux savoir? Rien, je m'intéresse, c'est tout. Marthe a la manie des questions. Fernand pense que Marthe a la manie des questions. Là où Marthe s'imagine alimenter des conversations, Fernand ne voit que des interrogations. Il croit se protéger en se racontant le moins possible, il évite d'entamer une discussion, rien de plus dangereux, selon lui, que de lancer le premier mot. Il veut bien se laisser manger à la sauce que Marthe choisira, mais pas se tirer tout seul une balle dans le gros orteil. Même si à la fin il se retrouve ficelé dans l'impasse, entortillé dans un réseau de points d'interrogation, au moins la responsabilité ne lui en revient pas. Il n'a pas été l'instrument de son malheur. Pas du tout du genre Fernand à ne s'en prendre qu'à lui-même.
De l'avenir. Ni. Va, mon enfant, dors, mon cheval.
Lay down in the tall grass, in the flat-bottomed boat. We lay down and wait for you, with nothing but a piece of rope. Dreaming every night of you, shaking at the sight. I'll be dreaming every night of you. I'll be shaking at the sight of you. Will you beg for forgiveness? Will you pray to be saved? Or will you choke your children when they spit in your face? Dream on every night of you, shaking at the sight. I'll be dreaming every night of you, I'll be shaking at the sight. I dreamt you found me out in the field. You tripped over my sight, and you dug me out of a shallow grave with your Swiss Army knife. And only you could revive me, so badly decomposed I was bone white, dry and scaly. But you still took me home, dreaming every night of you, shaking at the sight of you. I'll be dreaming every night of you. And how can you be so serene? Motivation unclear. In a late basement seance that brought us to tears. Dream on every night of you, shaking at the sight. Oh, I'll be dreaming every night of you, I'll be shaking at the sight. And I dreamt you found me out in the field. You tripped over my sight, and you dug me out of a shallow grave with your Swiss Army knife. And only you could revive me, so badly decomposed I was bone white, dry and scaly. But you still took me home. Dream on every night of you, shaking at the sight of you. I'll be dreaming every night of you.
Thank you. Parvenu à cette conclusion, le docteur Mike eut l'impression de se tenir au bord d'un gouffre immense, béant, noir. Jamais la sensation de désespoir et de tristesse n'avait été aussi forte. Il comprit qu'il en était maintenant exactement au point où la part pourrie, désaxée, masochiste de son psychisme, avait voulu le conduire. Il ne plongerait pas dans le néant, mais le néant engloutirait tout ce qui l'entourait. Sa femme, ses enfants, sa carrière, tout ce qu'il avait construit depuis l'époque où il animait une émission de radio à Santa Barbara. Il serait dépouillé de tout. Anne, dit-il soudain, étonné d'entendre le son de sa voix. Il faut qu'on parle. C'est ce qu'on fait, Mike. Bon sang, est-ce que tu pourras un jour me laisser terminer sans m'interrompre? Tu fais ça sans arrêt. Et c'est... ta gueule! Nom de Dieu, tu ne peux pas fermer ta gueule et m'écouter! Cela la fit taire, aussi efficacement qu'une gifle. Ils se dévisagèrent en silence pendant quelques instants. Maintenant qu'il savait, au fond de son cœur, qu'il était sur le point de la perdre, elle lui parut à nouveau belle. La froideur et la dureté qu'il percevait depuis longtemps sur son visage parurent s'évaporer, dévoilant les aspects cachés de la femme dont il était tombé autrefois amoureux dans la station de radio locale où il travaillait. Il ôta ses lunettes et frotta l'arête de son nez. Il les remit et la regarda dans les yeux. « Il faut que je te parle de quelque chose, » dit le docteur Mike d'une voix hésitante.
I sing a song in the dark, 'cause I'm down in the lack of those treasures we found when we dug up the ground. I spend days and the nights watching friends and their wives. Me, I'm locked in the songs we made as we were young. My blood froze up in my veins while you stared at the floor. If I had a gun in my hand, would I see in the end of this life on a rack something I could regret? Or would I smile to the world, when it gets cold? Thank you for what I've got. Fuck you for what I'm not. My blood froze up in my veins while I stared at the floor. You know some planets are gone, and I plan my escape.
De l'eau sur Mars, sur et les bords.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je
voilà que s'éloignait de moi une femme qui avait été la compagne de ma vie pendant des années, dont le corps ardent s'était élastiquement prêté au mien, dont l'haleine s'était confondue avec la mienne pendant de longues nuits, et rien ne remuait en moi. Rien ne protestait. Rien ne cherchait à la reconquérir. Rien ne s'éveillait dans ma sensibilité de ce que le simple instinct de cette femme supposait devoir être une chose naturelle chez un homme normal. C'est à ce moment-là que je me rendis compte pour la première fois, d'une manière complète, combien le processus d'engourdissement s'était développé en moi. Je ne faisais que glisser comme sur une eau courante et miroitante, sans m'attacher à rien, sans m'être enracinée nulle part, et je savais bien que cette froideur était quelque chose de cadavérique, sur quoi, il est vrai, ne s'élevait pas encore la pestilence de la corruption, mais qui, malgré tout, était déjà une torpeur sans espoir, une froide et effrayante insensibilité, et par conséquent, comme la minute qui précède la mort véritable, la mort physique, la fin, visible même extérieurement, de toute chose. Depuis cet épisode, je me mis à m'observer avec attention, à observer cette étrange apathie qui était en moi, comme un malade observe sa maladie. Lorsque, peu de temps après, un de mes amis vint à mourir et que je suivis son cercueil, j'auscultais mon âme pour savoir si le deuil, si la douleur ne la faisait pas vibrer, s'il n'y avait pas dans mon être quelques fibres sensibles, en constatant que cet homme que je connaissais depuis mon enfance était à jamais perdu pour moi. Mais rien ne bougeait. Je me considérais moi-même comme un objet en verre, à travers lequel brillent d'autres objets, mais qui ne les contient pas. Et j'eus beau m'efforcer, en cette circonstance et en beaucoup d'autres semblables, de ressentir quelque chose, j'eus beau même chercher à contraindre ma sensibilité par des raisons intellectuelles, aucune réponse ne sortit de cette rigidité intérieure. Les hommes me quittaient, les femmes allaient et venaient. Cela ne faisait pas plus d'impression sur moi qu'en fait, sur quelqu'un qui assis dans sa chambre, la pluie qui tombe sur la vitre. Entre moi et la réalité immédiate, il y avait une cloison de verre que je n'avais pas la force de briser.
Noche así cuando él no me dijo y ahora no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de nada, pero eso sé que sé, que sé, que sé quién es él. Es el bandido, bandido, bandido le amo, es el bandido, bandido del amor. Es el bandido, bandido del amor, el bandido. Fue una noche así, con el bandido. Fue una noche así, con el bandido. De Perú a Paraguay, el bandido. Brasil, el bandido. Bandido del amor, el bandido del amor, el bandido del amor. Bandido del amor, el bandido del amor, el bandido del amor. Fue una noche como así que te conocí, el bandido. Una noche como
de l'eau sur Mars, sur et les bords.
Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel. Au ciel. On est loin des amours de loin. On est loin des amours de loin. Loin.
On est loin.
Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. On est loin des amours de loin. On est loin des amours de loin.
On est loin.
Madame rêve, loin au ciel. On est loin,
Madame rêve.
Au ciel.
Madame rêve.